Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode d'Horizon Lointain, je vous propose de retrouver nos amis Mélanie et Tristan de Tamatam Voyage Sonore. Rappelez-vous, la saison dernière, nous les avions suivis pendant 9 mois et diffusé leurs sons enregistrés de l'Islande à la Turquie, en passant par les pays baltes et l'Europe centrale. Autant d'ambiances sonores, de musiques et de paroles, fruits de leurs rencontres. Leurs capsules sonores nous offrirent donc de belles rencontres avec des peuples et des cultures différentes. Après ces 9 mois et 18 000 km parcourus sur les routes d'Europe, Mélanie et Tristan sont repartis cette fois pour l'Asie du Sud-Est. Depuis plus d'un mois, ils sont en Indonésie avec une première étape sur l'île de Java, à Jakarta, arrivés dans une ambiance surchauffée et de nuit dans le brouhaha des bruyantes mobilettes qui circulent en permanence dans les rues. Toujours à pied, Mélanie et Tristan vont orienter leur voyage dans l'Est, traverser Java pour se rendre vers d'autres îles, dont l'île de Bali. Leur but, rencontrer le maximum de gens et de privilégier l'autostop, ce qui n'est pas forcément le moyen de locomotion le plus utilisé en Indonésie. L'Indonésie, c'est pas moins de 17 500 îles, le plus grand archipel de la planète et la troisième surface de forêt vierge du monde. Première escale pour nos amis, un petit village, Bolawen, au nord d'une grande ville, Yogyakarta. Nous sommes au centre de Java et c'est la deuxième ville du pays et la capitale culturelle. À Bolawen, Mélanie et Tristan sont accueillis par le chef de village. Ils vont assister à un mariage et à une répétition de ce que l'on appelle en Indonésie le wayang kulit, le théâtre d'ombre. Je vous propose d'écouter une jeune femme, elle s'appelle Kinanti, elle est l'hôte de nos amis et leur explique en anglais le déroulement du mariage. Je vous lirai le texte de Mélanie et Tristan derrière le son de cette jeune femme.
Japanese wedding especially, but it's the simple one that the village of Kromodangsan in Yogyakarta. So the wedding today was the wedding of my neighbor. I call her Mbak Arum, and the bride and the groom is Mas Tri. They got married on Thursday, but then they celebrate their marriage, their wedding today.
Les mariés sont vêtus de costumes traditionnels. La mariée a dans ses cheveux une tresse de fleurs de jasmin, symbole de beauté et de pureté. Sa coiffe se compose aussi d'un ornement composé d'un triangle représentant le dieu Allah et 5 étoiles, fleurs en or, symbole des 5 piliers de l'islam. Kinanti, notre hôte, nous explique en anglais le déroulement de la cérémonie de mariage. La fête commence 5 jours avant pour permettre à tous ceux et celles qui souhaitent saluer le couple de venir les rencontrer. Puis, continue Mélanie et Tristan, vient le grand jour. Le cortège des mariés avance en procession au milieu du trafic de la chaussée. Le couple prend place sur une estrade et démarre alors une suite de discours du père de la mariée au chef du village, puis arrive enfin l'imam pour le sermon et le mariage. Pendant ce temps, les 200 convives, assis autour de l'estrade, dégustent les mets préparés la veille. Nasi gorem, riz grillé, riz gluant à la viande, enroulé dans une feuille de bananier, pastèque et thé au jasmin très sucré, le thé au jasmin étant très prisé par les Indonésiens, et une part de brownie, ce qui semble un peu incongru ici. Le Kampur Sari est une musique que l'on entend en fond, interprétant des airs traditionnels dans une certaine modernité. La chanteuse est accompagnée par 2 musiciens, l'un jouant du synthétiseur et l'autre donnant le rythme avec un katipung, tambour traditionnel javanais. Les paroles sont simplifiées et parlent d'amour et encore d'amour. Ce style de musique est très apprécié, en particulier dans les villages. Il est 11h30 du matin, la cérémonie se termine, le mariage semi-traditionnel musulman dans un village du centre de Java se déroule de 9h à midi. Il est vrai qu'il fait déjà 35 degrés et que tout le monde semble avoir très chaud.
Still wearing a jarik from batik, but the top is kebaya. Kebaya is actually also traditional dress of Indonesia, especially in Java. But then it was modified to be more glamorous with beads and paillet and a lot of color of gold. And the work of the hair is also very philosophical. So the bride wear arrangement of jasmine flower. It's a symbol of beauty. Also, it will bring a special aura for the bride because of the very sweet smell of the flower. And there's also a headpiece which with the form, the shape of mountain, like triangle like this. It's actually a symbol of one God, especially in Muslim, Allah. And then also there are like five flowers from gold. It's the symbol of five rules in Islam.
Voilà donc ce mariage et donc le texte que je vous ai lu, hein, c'est le texte que nous ont fait parvenir Mélanie et Tristan puisqu'ils tiennent un petit journal de ce voyage et nous écouterons ensuite d'autres textes de leur composition. Alors un peu plus tard, après ce mariage, toujours dans cette petite ville de Bolawen, hein, nos amis ont assisté à la répétition hebdomadaire du wayang, le wayang kulit, qui est une des plus anciennes formes de spectacle de Java. Alors avant de lire le texte de nos amis, peut-être un petit rappel sur, ou du moins une découverte peut-être pour vous, sur ce qu'est le wayang kulit, qu'on appelle encore le théâtre d'ombre de l'île de Java. Alors le wayang kulit se serait transmis sans interruption d'au moins un millier d'années. Hein. À Java, les représentations durent une nuit entière et ne s'achèvent qu'au petit matin. On n'insistera jamais assez sur l'importance du théâtre d'ombre dans la culture traditionnelle javanaise. Alors, wayang kulit, se traduit par théâtre de cuir. En effet, le wayang kulit combine les arts de la musique instrumentale, du chant, de la poésie, de la dramaturgie, du jeu d'acteurs, de la comédie, de la déclamation, de la manipulation des figurines, de leur fabrication et du costume et de la peinture. En fait, ce sont des petites figurines qui sont en cuir, hein, de sortes de marionnettes. Hein. Et les histoires qui sont racontées dans ce wayang kulit sont la plupart des épisodes des deux grands récits épiques qui sont tirés de la littérature hindoue, du Ramayana et du Mahabharata, hein, relus à travers une vue plus réelle, hein, de la réalité contemporaine. Hein, le Dalang, qui est la personne que l'on entend en arrière-plan de ce spectacle de marionnettes, se sert de ces personnages pour exprimer son opinion et celle de ses concitoyens sur les affaires du pays ou sur les questions qui occupent la société. Donc on se sert d'instruments anciens, mais à la sauce contemporaine pour exprimer aussi ses opinions. Alors un grand dalang sait raconter, mais aussi improviser à partir d'un canevas et relier l'histoire à l'actualité, reproduire la voix douce d'une princesse, imiter le ton canaille d'un rustre ou exprimer avec élégance toute la colère retenue d'un noble prince. Donc le dalang doit être un très bon parleur, un très bon comédien. Maintenant, on peut peut-être, je vais vous lire ce que nos amis ont relaté par rapport à ce wayang kulit, mais si vous le voulez bien, on va peut-être écouter d'abord le son lié à ce wayang kulit et on lira leur texte ensuite. Thank you. vient d'écouter un extrait du wayang kulit indonésien. Alors, vous imaginez, là, on a écouté quelques secondes, quelques minutes. C'est un spectacle qui, en général, à une époque, se déroulait la nuit entière, hein, avec sans doute, je pense, une musique qui était quand même un peu adaptée ici. Comme vont nous l'expliquer Mélanie et Tristan, c'était quand même moins long. Donc, on a évoqué ici, dans le wayang kulit, le théâtre d'ombre indonésien. Donc, comme je l'ai dit, un art pratiqué depuis longtemps et qui, le spectateur, donc, s'émerveille des légendes indiennes, puisqu'elles sont inspirées de ces légendes indiennes très anciennes, accommodées, comme je les disais auparavant, un peu à la sauce actuelle, c'est-à-dire qu'on aborde des problèmes d'actualité dans ce wayang kulit. Alors, donc il y a deux choses. Il y a le spectacle de marionnettes, hein, qui défile entre la lampe et le tissu. Hein. Ce sont des marionnettes, ce sont des petites figurines confectionnées en cuir, finement ciselées et peintes et maintenues par une tige de corne, de bois ou de bambou. Hein. Et d'un autre côté, il y a des musiciens qu'on appelle le gamelan. Hein. Ce sont un groupe de musiciens qui jouent donc derrière ou à côté donc de ce petit théâtre de marionnettes. Alors voyons ce que disent Mélanie et Tristan. Alors ce soir-là, nous étions invités à la répétition hebdomadaire du Wayang. L'ambiance est très conviviale. Le maître de maison apporte des beignets, du thé au jasmin et des cigarettes. Dans une atmosphère enfumée, les musiciens passent d'instrument en instrument, ce qui est une caractéristique de cette musique. Pendant ce temps, le marionnettiste continue imperturbable la litanie des histoires. La soirée continue jusqu'à très tard. Autrefois, les wayang duraient toute la nuit, mais aujourd'hui, avec la vie moderne, les séances durent environ 3 heures. Nous étions enchantés et nous avons eu la chance de s'initier au maniement des marionnettes en cuir finement ciselé. Donc voilà pour le wayang. Après, si vous voulez une petite respiration avec l'ambiance, la nature, le soir, nous sommes dans la forêt de Bolawen. Voilà, on aura pu s'imaginer, hein, dans le village de Bolawen, peut-être dans un hamac entre deux palmiers, hein, c'était assez... Et puis il y a eu un son particulier, on va y revenir avec le texte que je vous propose maintenant, texte écrit par Mélanie et Tristan. Un soir, dans le village de Bolawen, nous écoutons la forêt nous parler, la nuit apporte sa fraîcheur et tout un monde s'éveille, insectes, batraciens, oiseaux, des villageois font la pause ronda, la ronde, ils se retrouvent sous un abri fait le plus souvent de bambou, boivent du thé, fument et palabrent. Alors si vous avez bien écouté et tendu l'oreille, vous avez pu entendre le son du cantongan, une branche d'arbre creusée qui est le signal de protection du village. Alors la forêt, naturellement, fait partie intégrante de la vie des habitants, hein, de toute cette région d'Indonésie, notamment sur Java, puisqu'elle fournit de la nourriture, manufacture des matériaux de construction et aussi des médicaments. Avec, il y a toute une pharmacopée avec les plantes qui poussent. Alors, c'est, cette forêt indonésienne connaît aujourd'hui une déforestation très, très importante, grandissante, due surtout à l'urbanisation, l'exploration des bois, l'exploitation minière et la production de caoutchouc et de papier. Alors, sur cette île de Java, les distances sont importantes, mais l'île bénéficie d'un réseau ferré qui est assez bien développé, ce qui permet de se déplacer rapidement à travers les rizières et les volcans qui sont très nombreux. Et justement, Mélanie et Tristan se sont arrêtés près de l'un d'entre eux. Ils racontent ce qu'ils ont vu près de ce volcan qui s'appelle le volcan Bromo. Hein. Le volcan Bromo, c'est un volcan qui est situé donc dans l'est de Java. Hein. On n'est pas très loin aussi là de Bali. C'est à environ 100 km au sud d'une ville qui s'appelle Surabaya, dans le massif du Tengger. C'est un volcan très haut, puisqu'il culmine à près de 2500 mètres d'altitude, et son cratère fait environ 800 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. Alors, c'est un volcan qui est en activité. Hein, le panache qui s'en échappe en permanence, dit Mélanie et Tristan, est très impressionnant. Et depuis longtemps, ce volcan est sacré pour les Javanais, en particulier les hindouistes, qui étaient considérés comme les gardiens du volcan. Au pied de ce volcan, Bromo et d'un autre, qui s'appelle Batok, se dresse un immense temple hindouiste très important pour les habitants du Tengger. Tous les ans, depuis des centaines d'années, les hindouistes gravissent les pentes du volcan pour y jeter des offrandes. C'est la cérémonie du Quesada. Le nom du volcan Bromo dériverait du dieu créateur de l'hindouisme qui est Brahma. La caldeira de Tengger est impressionnante avec ses dizaines de kilomètres de circonférence. Cet ensemble fait partie du parc national Brom Tengger Semeru. Le mont Semeru, point culminant de Java, situé un peu plus au sud, est considéré comme le séjour des dieux pour les hindouistes. Alors, c'est donc dans une ambiance mystique, continuent Mélanie et Tristan, que nous attaquons les pentes de l'immense volcan avec notre mobylette semi-automatique. La traversée du village de Ngadas est impressionnante. Littéralement accroché au flanc de la montagne, les habitants cultivent des parcelles que l'on croirait verticales. Les terres fertiles et le climat propice permettent 3 récoltes de riz par an au lieu d'une seule. Arrivé sur la crête de la caldeira, à environ 2400 mètres, la vue est splendide sur les volcans posés à l'intérieur de ce cirque. Après 200 mètres de descente, nous entamons une marche forcée de 12 km dans la mer de cendres, au milieu de la caldeira, ambiance extraterrestre. Le monde flotte tel un mirage, tellement la chaleur est intense, mais nous ne ressentons rien car nous sommes à 2200 mètres d'altitude. Nous marchons littéralement sur nos ombres, le soleil étant à la verticale. Après 3 heures, nous arrivons au pied du temple hindou et gravissons les 250 marches qui nous séparent du cratère du volcan Bromo. Arrivé en haut, le brouhaha, des panaches de fumée et le vent violent nous cueillent et finissent par nous convaincre de la magie du lieu. Le retour sera tout aussi laborieux, mais nous aurons la chance de croiser un 4x4 pour touristes vides qui s'arrêtera pour nous prendre en stop. La redescente du massif se fera à toute petite vitesse avec les travailleurs de la caldeira. Nous en profiterons pour enregistrer les sons de la forêt en cette fin d'après-midi. Et justement, je vous propose pour terminer d'écouter les sons récoltés par nos amis. Beau être au pied d'un volcan, on peut imaginer que la végétation est peut-être moins intense que celle vue précédemment, hein, mais quand même beaucoup de sons, beaucoup d'insectes certainement et d'oiseaux aussi dans cette région. Après, donc, nos amis vont quitter l'île de Java pour arriver sur Bali. Ils vont se rendre sur la côte nord de l'île qui est plus calme, hein, loin de l'agitation touristique. Et voici les quelques mots qu'ils nous donnent depuis cette région. Alors des villageois hindous, communauté majoritaire sur l'île, nous invitent autour d'un café et de gâteaux de riz balinais à l'inauguration d'un lieu collectif. Son de gamelan, joué par des femmes cette fois-ci, encens, prières et offrandes, l'ambiance est reposante, douce, puis nous sommes projetés au milieu du sang, de l'argent, de la sueur, un combat de coq avec Paris a lieu juste derrière la cérémonie hindoue. Les hommes sont excités, les billets circulent de main en main, les coqs s'entretuent, les joueurs nous proposent de faire des paris, nous déclinons l'offre. Le retour se fait à travers les champs de tapioca, les bananeraies, les palmeraies, où nous croisons de nombreux enfants à mobylette, ravis de nous lancer des « Hello, how are you ?». Voilà donc presque terminé ce séjour à Bali. Aux dernières nouvelles, et elles sont très récentes puisqu'elles datent de vendredi dernier, Mélanie et Tristan se trouvaient encore plus à l'est sur une autre île qui s'appelle Lombok. Elle devient, semble-t-il, une des nouvelles destinations touristiques de l'Indonésie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute hein, et nous retrouverons alors peut-être pas systématiquement nos amis à chaque émission puisqu'il est parfois difficile aussi de nous faire parvenir des informations, mais on aura bien sûr, on va continuer à les suivre dans les épisodes suivants d'Horizon Lointain. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Manu à la réalisation technique et à très bientôt pour de nouvelles aventures.